Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à tous, ici Armand Dubois. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Au gré du temps de la série Destination Bonheur. Notre invité, il était avec nous la semaine dernière et il a bien voulu accepter très gentiment de nous revenir tellement le thème que nous abordons, celui de l'espace, de la vulgarisation scientifique, a vraiment un intérêt très grand pour celui qui vous parle et sans aucun doute pour vous aussi. Avec nous aujourd'hui, Pierre Chastenay. Merci d'avoir accepté de nous revenir.
Ça me fait plaisir. Vous avez passé une belle semaine?
Tout à fait, vous-même.
Très belle semaine.
Vous avez vu des étoiles en quantité?
Un peu.
Un peu. Dites-moi, Monsieur Chastenay, j'allais vous dire, on a beaucoup parlé la semaine dernière de cette exploration spatiale. On a terminé où on parlait de la conquête peut-être de Mars. Est-ce que c'est un projet qui est véritable ou est-ce que ce ne sont que des spéculations de politiciens pour nous faire croire que le projet spatial va continuer d'exister?
Quand on se pose la question, on pense en général immédiatement aux missions Apollo, qui sont peut-être l'exemple le plus proche de ce que serait l'exploration de la planète Mars par des astronautes. Et dans les années 60, on le sait maintenant, les missions Apollo étaient d'abord et avant tout des missions politiques. C'était le défi que Kennedy avait lancé à la nation américaine en disant « si on ne réussit pas ça, ce seront les Russes qui vont dominer dans l'espace, mais aussi toute la technologie des lanceurs et qui vont prendre une avance sur nous qui va devenir insurmontable. » Déjà qu'en 61-62, les Russes avaient réussi à placer le premier satellite en orbite autour de la Terre, le premier homme en orbite autour de la Terre, la première sonde lancée vers la Lune. Bref, les Américains devaient réagir vite et en frappant un grand coup. Et le grand coup, ça a été Neil Armstrong, le 20 juillet 1969, premier pas sur la Lune. Aujourd'hui, évidemment, le contexte est très différent. Aller vers Mars ne sera pas le fruit d'une politique expansionniste d'un pays en particulier. Si ça doit se faire, ça va se faire grâce à la collaboration de plusieurs pays. Parce qu'aucun des pays dans le monde n'a suffisamment d'argent ou de moyens pour faire ça seul. Est-ce que envoyer des humains vers Mars est la meilleure façon d'explorer la planète d'un point de vue scientifique? J'ai des doutes. Nous avons maintenant des robots qui sont de plus en plus intelligents, qui sont de plus en plus versatiles, qui sont capables d'être l'extension de nos sens de façon encore plus pointue et plus précise qu'il y a à peine quelques années. Cette évolution-là se fait très rapidement. Et l'avantage des robots, c'est que si on en perd un, si un s'écrase sur Mars ou sur la Lune, ben c'est dommage, mais on en construit un autre. Mais même souvent, on a des pièces de rechange et on peut même le construire plus rapidement que le premier.
Alors que là, on n'est pas à côté de chez nous. Là.
Ben, ça on n'est pas
quand
à côté de chez nous.
Un certain temps pour s'y rendre.
Ça prend. Prenons l'exemple de Mars. Pour aller vers Mars, le plus rapidement qu'on peut y aller, ça prend 6 mois, avec les moyens actuels. 6 mois dans l'espace, on le sait, les astronautes souvent ont du mal, lorsqu'ils reviennent sur Terre après 6 mois, ils ont du mal à se lever et à marcher parce qu'ils ont perdu de la masse musculaire, ils ont perdu de la masse osseuse et ils sont fragiles jusqu'à un certain point. Alors imaginez un voyage de 6 mois vers Mars, les astronautes auraient peut-être de la difficulté à se déplacer à la surface de la planète, ben, quel est l'avantage de les envoyer? D'autant qu'une fois qu'ils sont rendus, il faut attendre à peu près 1 an avant qu'ils se remettent en route pour revenir vers la Terre. Donc, on parle d'un voyage au minimum de 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, il faut que les astronautes mangent, boivent, respirent. Mm-hmm. Les défis technologiques à relever pour réussir ce genre de mission-là sont absolument démesurés, tels qu'on les conçoit aujourd'hui.
J'allais dire, mais pourquoi aller sur Mars?
Ben, en fait, la raison principale d'aller sur Mars, que ce soit par robot interposé ou avec des astronautes, c'est parce que Mars est une planète fascinante qui nous permet de mieux comprendre les origines et l'évolution du système solaire. Actuellement, lorsqu'on étudie la vie sur une planète, le seul exemple que nous ayons, c'est la Terre. Et il n'y en a pas d'autre, à notre connaissance. Mm-hmm. On pense que Mars, dans un passé très lointain, on parle d'il y a quelques milliards d'années, a été recouverte d'eau. Or, s'il y a eu de l'eau sur Mars, il y a peut-être eu de la vie brièvement sur cette planète. Et peut-être que cette vie-là a laissé des traces.
D'accord.
Donc, le fait d'aller sur Mars, de faire de la prospection géologique, d'aller fouiller sous la surface, d'en retirer des carottes et éventuellement de les ramener sur Terre pour analyse, pourrait nous permettre de répondre à la question très importante de savoir si la vie est possible ailleurs que sur Terre. C'est une question absolument fondamentale. À partir du moment où on trouve un autre exemple d'un endroit dans l'univers où la vie est possible, là, la vie devient soudainement possible partout. Alors que dans l'état actuel de nos connaissances, il y a un seul endroit dans l'univers où on sait qu'il y a de la vie, c'est sur Terre. Donc, ça, c'est la grande importance de l'étude de Mars. Cette étude-là, est-ce qu'elle doit se faire par des êtres humains ou est-ce que des robots pourraient y parvenir?
Et c'est là où vous posez certaines questions, moi, vous avez certaines réserves.
Personnellement, je crois que, compte tenu de l'évolution technologique des robots, des ordinateurs, des senseurs et autres, je pense que des robots seraient parfaitement capables de faire une bonne partie du travail. Ça ne veut pas dire que les humains sont inutiles, mais avant d'envoyer les humains, de mettre leur vie en danger, de risquer de perdre un équipage, et on sait quel impact ça a sur la psychologie des gens qui restent sur Terre en arrière, ben peut-être qu'on aura avantage à y aller avec des robots.
Alors, je vais quand même vous amener sur Mars, parce que nous allons entendre un extrait de « Des planètes » de Gustav Holst, et c'est l'extrait qui porte le titre de « Mars ». Pierre Chastenet est avec nous au gré du temps. L'exploration spatiale, bon, vous exprimez des réserves à l'égard de la présence humaine sur Mars.
L'exploration habitée, oui.
L'exploration habitée. Des gens vous diraient, et on entend ça très souvent, pourquoi faire envoyer même des robots à l'extérieur alors qu'il y a tellement de problèmes à régler sur Terre?
Ouais.
Quand vous entendez cela, vous, j'imagine que le scientifique en vous et le passionné aussi de l'espace, de la conquête, de la connaissance, parce qu'on pousse, on cherche toujours comme scientifique à améliorer notre degré de connaissance.
Tout à fait.
Vous devez sursauter quand même un petit peu.
C'est-à-dire que je sursaute pas parce que je comprends très bien d'où vient cette objection et je la partage jusqu'à un certain point. Disons que cette objection-là, je la soulève plutôt en regard des dépenses militaires que des dépenses de l'exploration spatiale. Mais je peux comprendre que pour les gens, ce soit un peu du pareil au même. Ma réponse en général est la suivante. On ne sait jamais d'où viendra la prochaine innovation ou la prochaine découverte scientifique qui va peut-être améliorer la vie de tous les humains sur Terre. Ça, c'est ma première réponse. Et donc, on ne peut pas commencer à cibler la recherche scientifique en disant « on va chercher là-dedans parce que ça va être utile, puis ça, on va le laisser tomber parce que c'est trop ésotérique, puis ça rapportera jamais rien. » C'est pas vrai. Ce sont souvent les recherches les plus « ésotériques », entre guillemets, sur les sujets les plus pointus qui amènent la révolution technologique ou scientifique qui change nos vies. Et le plus bel exemple de ça, c'est la découverte de l'électron, il y a un peu plus d'un siècle maintenant. L'électron qui éventuellement a mené à la compréhension, à la découverte du mécanisme du transistor.
Oui.
Et le transistor qui a donné naissance à la révolution technologique. Aujourd'hui, tout le monde a un cellulaire, un iPod, un ordinateur. On regarde la télévision sur des écrans plasma démesurés. Rien de cela serait possible sans l'électron, qui était le fruit d'une recherche parfaitement science pure, dans un laboratoire ésotérique et tout. Alors, ça, c'est ma première réponse. On ne sait pas d'où va venir la prochaine découverte qui va bouleverser nos vies. Donc, on peut pas se permettre de ne pas chercher dans tous les domaines. Maintenant, l'autre objection que je soulève, c'est que ce n'est pas parce que l'on cesserait d'investir dans la recherche spatiale que nécessairement cet argent-là, par un principe de vase communicant, se retrouverait en Afrique ou en Asie, où là, on en a besoin. Puis ici, dans nos communautés autochtones, qui sont un véritable tiers-monde pour le Québec et le Canada, cet argent-là ne serait pas nécessairement disponible pour ces gens-là. Alors, à mon avis, c'est un faux problème. L'argent, pour régler les problèmes que l'on a sur Terre, il existe. Il est simplement mal réparti. Et avant d'accuser les programmes spatiaux, peut-être qu'on pourrait regarder notre deuxième ou notre troisième voiture, puis notre immense bungalow en banlieue, puis se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Puis est-ce qu'au contraire, on ne devrait pas trouver une façon de partager les richesses et de les rendre accessibles à des gens qui en ont besoin?
Donc, ça répond peut-être à la question que nous adressions la semaine dernière à l'égard du projet de la station spatiale. Même s'il n'y a pas nécessairement immédiatement des retombées scientifiques, ce projet permet peut-être de mieux comprendre certains aspects de la vie en apesanteur, du comportement de l'organisme humain.
Tout
donc, on apprend à mieux maîtriser les longs voyages possibles.
Il y a là des connaissances à acquérir. La question à se poser, c'est est-ce que on n'a pas investi trop d'argent pour acquérir ces quelques connaissances-là?
Vous en pensez quoi, vous?
Ben, c'est sûr que la station est très vaste, elle est très grosse, elle a coûté très cher. Est-ce que on aurait pu obtenir des résultats similaires avec une station plus petite, comme à l'époque
Mir.
Les Soviétiques avaient la station Mir? La question se pose. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement un domaine dont je connais tous les tenants et les aboutissants. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles la station a ces dimensions-là que je ne connais pas et qui deviendront évidentes un peu plus tard.
Là. Et qui aura une longue vie, à votre avis?
Ben, je l'espère. Je l'espère. Elle est à, si je me souviens bien, 250 ou 300 kilomètres d'altitude, ce qui la place suffisamment au-dessus de l'atmosphère pour éviter qu'elle soit freinée par la friction sur l'air. Et puis, il y a toujours la possibilité de la soulever de temps à autre. Alors, au contraire, j'espère qu'elle a été construite pour durer, surtout au prix qu'elle a coûté.
Oui, absolument. Écoutez, on va passer du Big Bang au Big Band.
Ouais.
Vous connaissez Lorraine Desmarais?
Oui, bien sûr.
Et elle a un trio. Elle a lancé l'année dernière un album qui s'appelle Lorraine Desmarais et le Big Band. Et ce sont des compositions à elle, dans un style tout à fait particulier et qui rappelle bien sûr les grands orchestres des années 40. Alors on écoute le trio, non pas le trio, mais l'orchestre Big Band de Lorraine Desmarais.
Thank you.
On revient cette fois avec Pierre Chastanet pour parler davantage de l'homme derrière l'astronome, parce que vous avez consacré beaucoup à l'aspect éducatif. Par exemple, vous avez écrit des livres qui s'adressent aux jeunes.
Pardon.
Vous avez eu aussi ces émissions à la télévision et le Code Chastanet, qui a vraiment marqué toute une génération, parce que c'est des émissions qui ont encore cours.
Oui, tout à fait. En fait, on est en ondes depuis septembre.
Est-ce que c'était un projet à vous, ça?
C'était pas un projet à moi. Ça fait 15 ans que je fais de la télé avec Télé-Québec. C'était même Radio-Québec à l'époque, donc c'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps. J'ai animé des émissions scientifiques qui s'appelaient Télé-Sciences à l'époque, où on présentait des documentaires
avec
scientifiques.
Avec Claire Pimparé, je crois, non?
Non, ça c'était un autre projet.
C'était Omniscience, je pense.
Ouais, voilà. Et ça, c'est même avant que je commence à travailler avec Télé-Québec. Et donc, c'est ça, j'étais animateur, surtout l'été, on présentait des documentaires scientifiques à Télé-Québec, et puis il y a quelques années, c'est l'équipe de Pixcom qui avait reçu le mandat de Télé-Québec de faire une émission de vulgarisation scientifique, donc c'est l'équipe de Pixcom qui sont venus me chercher, ils m'ont proposé d'embarquer dans ce projet-là, j'ai été très heureux d'accepter. Parce que c'était une première pour moi aussi. J'avais beau avoir déjà fait de la télé, je parlais directement à la caméra, j'étais seul sur mon navire, si vous voulez. Alors que là, avec l'équipe du Code, c'est un plus gros navire et puis il y a pas mal plus de monde à bord.
Et ça vous plaît?
C'est très agréable. Mais il faut dire que c'est une équipe absolument extraordinaire. Ce sont des gens formidables. Tous les recherchistes, les journalistes, ce sont des gens qui ont des formations scientifiques, qui connaissent, qui comprennent la science et qui sont de très, très grands talents de vulgarisateurs. On a Binan Vivan, par exemple, qui a gagné la bourse Fernand Seguin il y a quelques années, qui est un peu le grand prix des nouveaux vulgarisateurs scientifiques, si vous voulez. Véronique Morin, qui a énormément de talent puis qui a fait de la télé depuis très longtemps. Il y en a plein d'autres. Alors, tous ces gens-là sont là pour supporter, apporter leur contribution à l'émission.
Ça m'amène à vous demander quel est le vrai Pierre Chastanet. En fait, il y a le scientifique, puis il y a aussi le communicateur. Les deux semblent être pour vous des aspects importants de votre personnalité, mais je soupçonne que le communicateur parfois prend l'avantage sur le scientifique. Est-ce vrai?
C'est-à-dire que faut être clair, j'ai une formation scientifique, mais je ne fais pas de recherche scientifique. Alors, je suis un scientifique, oui, mais je ne suis pas, par exemple, comme un René Doyon ou un Robert Lamontagne qui, eux, font de la recherche scientifique, publient des articles dans des revues spécialisées.
Mais communiquer vous passionne littéralement, ça se sent.
Je pense que c'est ce que je fais de mieux. Alors, tant qu'à faire, choisissons un métier où on peut s'exprimer, puis... faire valoir son talent, c'est ce que j'ai fait. C'est la chance que j'ai de pouvoir faire ça tous les jours.
Est-ce qu'au Québec, il y a suffisamment de jeunes attirés par le domaine des sciences? On dit souvent qu'il y a une
jamais,
carence.
Jamais de la vie. Et c'est dommage parce que
Pourquoi est-ce ainsi?
J'ai pas d'explication à ça. Je le constate comme d'autres. Je constate qu'au primaire, les jeunes sont très intéressés par les sciences. Je le constate parce qu'on reçoit des groupes du primaire au planétarium, parce que je vais parfois dans les écoles, parce que j'en rencontre dans les salons du livre. Les ouvrages auxquels faisait référence s'adressent à des 9-12 ans, donc c'est vraiment comme la fin du primaire et le tout début du secondaire. Et les jeunes sont passionnés par les sciences. Mais on dirait qu'il arrive un moment, peut-être à l'âge de 12 ou 13 ans, où c'est plus cool de faire de la science. Ou alors ça devient compliqué, ça devient difficile. Il y a les mathématiques qui embarquent et qui deviennent le langage qu'il faut maîtriser pour continuer à évoluer en sciences. Et c'est là qu'on perd beaucoup, beaucoup de joueurs. Alors, est-ce que c'est parce que les cours de sciences au secondaire sont mal structurés? Est-ce que c'est parce qu'ils vont trop dans les détails et laissent un peu de côté l'aspect émerveillement, l'aspect plaisir de la science? Je le sais pas, puis je suis pas un spécialiste pour vous répondre. J'ai pas de solution à apporter. Mais je le constate. Entre le primaire et le secondaire, il y a une désaffection importante. Et malheureusement, là, ces gens-là ne reviennent pas ensuite lorsqu'on arrive au cégep à l'université qu'il faut choisir une carrière
scientifique. Alors, j'ai fait appel à votre œil d'observateur, de témoin privilégié, parce que vous avez vu passer au planétarium de nombreux jeunes avec tous ces groupes scolaires qui viennent. Au fil des ans, est-ce que vous constatez qu'il y a presque un nivellement vers le bas quant aux connaissances générales de base en sciences?
J'ai pas l'impression. Au contraire, la réforme au primaire, de la façon dont elle est construite et de la façon dont elle est appliquée, introduit l'astronomie pour la toute première fois dans le programme de formation de l'École québécoise. Avant la réforme, il n'y avait pas d'astronomie dans les objectifs que les professeurs devaient atteindre avec leurs élèves. Donc, de notre point de vue, ça, c'est un plus. Et puis, les jeunes font plus d'astronomie et plus de sciences au primaire qu'ils n'en ont jamais fait. Donc, pour nous, ça se traduit par une meilleure connaissance des mots de base, des principes généraux et ainsi de suite. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce qui se passe au secondaire pour que les jeunes qui sont intéressés par les sciences s'en désintéressent? J'ai pas de réponse, malheureusement. Il y a sûrement des gens très, très intelligents qui se penchent sur la question, puis peut-être qu'on aura des réponses bientôt, mais pour l'instant, je pourrais pas vous répondre.
Mais il faudrait susciter davantage de carrières scientifiques, ça c'est incontestable.
Ben écoutez, on n'a qu'à regarder autour de nous les matières premières qui ont été l'épine dorsale de l'économie québécoise et canadienne pendant des décennies. Ne feront plus nécessairement vivre toute la population pendant encore très longtemps. D'une part parce qu'elle s'épuise, d'autre part parce que ça nous met à la merci de la fluctuation de la valeur de ces matières premières. Quand ça va bien, tant mieux, mais quand ça va mal, on gratte les fonds de tiroir. Je pense que ce qui va permettre à l'économie québécoise et canadienne de croître, c'est la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, ben, c'est le fruit de l'innovation. L'innovation, c'est la recherche et le développement. Donc, ça prend des chimistes, ça prend des physiciens, ça prend des ingénieurs, ça prend des technologues, ça prend des gens qui sont capables de imaginer des produits qui n'existent pas encore et de les créer, les mettre en marché pour intéresser les autres à acheter ces produits-là.
Alors, il y a sûrement d'autres choses qui intéressent aussi les jeunes. Il y a bien sûr les sciences qui devraient intéresser davantage les jeunes, mais les jeunes s'intéressent aussi beaucoup à la carrière d'un chanteur bien de chez nous, même s'il est d'origine rwandaise, c'est Corneille. On termine cette première demi-heure par cet extrait.
Ouais, attends, je vous dis où je suis. On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir les fantômes qui me hantent, les requiem que je me chante. Je joue dur chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, monte jamais tes faiblesses et dans le pire. Reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle âme. Donc je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire, je craque dès qu'on tourne le dos. Je marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, je fais face à mes nuits. Chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le taire, je suis seul au monde. Je me sens seul au monde. J'ai Noël et toutes ces bêtes fêtes de famille et tout ce qui rappelle ma plus belle vie. Je suis jaloux de vous les chanceux qui prenaient votre chair et votre sang pour acquis. J'ai horreur de votre pitié, je prends très mal votre générosité. Ça fait déjà un bout que je me suffis, c'est pas vrai mais pour être fort, c'est ça que je me dis. Quoi qu'il arrive, faut que je reste dans mon rôle. Quoi qu'il arrive, faut pas que je perde le contrôle. Je pense à moi avant le reste du monde, car avec les années je me suis rendu compte que si c'est pas moi, ce sera personne. Pas ni pas toi, ni personne. Ici bas c'est chacun pour soi, pour les pauvres et fiers solitaires comme moi. Quand je pense à ma vie, seul face à mes nuits, chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Et y'a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le taire, je suis seul au monde. Je me sens seul.